121 jours, 19h, 59 minutes et 32 secondes. À l'heure où je débute l'enregistrement de cet épisode, c'est le temps qu'il reste avant l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Nous sommes le 26 mars. Depuis un moment, les Jeux se vivent déjà sur Radio France Internationale. On appelle cela des avant-sujets. Ils sont présents une fois par semaine à l'antenne, qu'ils soient sportifs, économiques ou environnementaux. Et comme d'autres médias, notre radio se prépare. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Et vous, vous ferez quoi pendant ces JO? Vous serez où? À défaut de tickets pour suivre les épreuves dans les stades ou sur les sites dédiés, des milliers de volontaires vont eux pouvoir approcher ces jeux de près, de très près même.
Ils seront bientôt chargés d'accueil dans les gares et aéroports, ramasseurs de balles ou anges gardiens des athlètes venus s'imprégner d'un premier parfum des Jeux.
Le journaliste qui parle, c'est Christophe Diremzian, du service des sports de RFI. La préparation des Jeux, il suit cela depuis que Paris a décroché son titre de ville hôte. Et il y a quelques jours, il assistait à la convention des volontaires. Point de départ de l'aventure des Jeux pour 45 000 bénévoles. Il va me raconter tout cela. Nous ne serons pas seuls à bavarder durant cet épisode. Baptiste Coulon, qui est journaliste au Service France, est avec nous. Il a assisté à la répétition générale pour le parcours de la flamme olympique. Une sorte de test grandeur nature qui avait lieu dans le département de l'Aube, au sud-est de Paris.
En bord de route, ce sont eux qui donnent de la voix. Les écoliers ont quitté leur salle de classe pour se positionner devant leur école. Face à eux, un passage de témoin entre deux relayeurs, flamme olympique en main. David vient d'achever son relais.
Une chance d'avoir été sélectionné et de pouvoir participer. On apporte notre pierre à l'édifice.
Christophe et Baptiste, bonjour.
Bonjour Alexandra.
Bonjour Alexandra.
Baptiste, tout cela est faux. Alors, pas ton reportage, hein, évidemment. Quand je dis faux, c'est en fait que ce n'est pas la vraie flamme que portait ce monsieur que l'on vient d'entendre. Cette flamme, d'ailleurs, elle est où et est-ce qu'elle existe vraiment?
Alors, cette flamme, oui, elle existe. À l'instant T, je pense qu'on peut dire, je me tourne vers Christophe pour être certain, mais qu'elle est encore à Olympie, en Grèce, et qu'elle sera vraiment allumée à partir du 16 avril prochain. Et c'est seulement ensuite, à partir du 8 mai, qu'elle arrivera en France et qu'elle commencera son périple façon un peu Tour de France cycliste jusqu'à Paris, donc le 26 juillet.
Alors, ce parcours, tu vas m'en parler durant cet épisode, évidemment. Avant cela, et puisque tu as donc assisté à ce test, ce que je voudrais savoir, c'est d'abord pourquoi il a eu lieu dans le département de l'Aube. On est à quoi, 170, 180
c'est
km
ça,
de Paris?
C'est ça, à peu près 180 km de Paris. Bah, c'est justement une des raisons pour lesquelles le département de l'Aube a été choisi, c'est la proximité géographique avec la capitale. Ça permettait de déplacer assez rapidement les 400-500 personnes qui se sont mobilisées pour ce test dans le département de l'Aube, à la fois des membres de l'organisation, mais aussi les forces de sécurité qui se sont déplacées elles aussi pour mener des exercices lors de ce test grandeur nature. Et puis, l'argument principal malgré tout, c'est aussi parce que le département de l'Aube cochait pas mal de cases en matière de paysages, d'endroits traversés, aussi bien une grande ville, la ville de Troyes, qui est la préfecture du département, une agglomération, l'agglomération de la ville de Troyes, et puis aussi des villes un peu plus petites, Nogent-sur-Seine par exemple, où j'ai été, une ville de 6000 habitants. Donc une palette, des configurations différentes que souhaitait tester aussi le comité d'organisation, parce que la flamme olympique, quand elle va se déplacer en France, elle va se déplacer dans ces différents endroits, aussi bien des villes, mais aussi des espaces plus petits en France, des territoires à plus faible densité de population.
Les porteurs de la flamme, ce ne sont pas ceux qui porteront la vraie flamme?
Non, non, non. Alors là, pour ce test, en l'occurrence, moi j'étais beaucoup à Nogent-sur-Seine, qui était l'une des 6 étapes testées dans le département de l'Aube. En l'occurrence, il y avait 20 porteurs de flamme. C'était des porteurs de flamme fictifs, qui sont en fait des personnes qui ont été choisies soit par la commune de Nogent-sur-Seine, soit par la préfecture, pour leur engagement au sein de la collectivité dans le département de l'Aube. Tous étaient quand même très ravis à l'idée de pouvoir participer, apporter une petite pierre à l'édifice de la préparation de ces Jeux.
Christophe, c'est habituel dans les Jeux olympiques, que ce soit à Paris ou ailleurs, qu'il y ait ces tests de la flamme?
Oui, en général, parce qu'il faut toujours vérifier un principe très important, c'est la sécurité autour de la flamme. Plus forte raison dans le contexte, malheureusement, qu'on connaît en France. Forcément, il y a un dispositif sécuritaire très important pour éviter que des intrus viennent tenter d'éteindre la flamme ou simplement perturber le parcours. Donc là encore, ça prend une importance particulière. Et puis de toute façon, on le sait, et Baptiste l'a vu dans l'Aube, c'est un dispositif absolument énorme. En véritable configuration, il y aura 200 gendarmes et membres des forces de sécurité, des journalistes à foison à chaque fois. Et forcément, il ne faut absolument pas que le moindre grain de sable vienne perturber la machine. Tout est minuté à la seconde près. Les gens vont faire un parcours très précis. Ils ont un protocole très précis de transmission de la flamme d'allumage à faire. Donc forcément, tout ça doit être réglé au millimètre pour ne pas perturber, ne serait-ce qu'à un moment, le parcours très minuté de ce type d'opération.
Ça veut dire, Baptiste, dans ce que tu as vu, il y a des simulations d'intrusion, par exemple ?
Alors, pas des simulations d'intrusion. En revanche, la présence des policiers, elle était là. Enfin, les policiers étaient là. Et d'ailleurs, une partie du test, le jour J, visait aussi à tester le dispositif de sécurité. Christophe l'a dit, il y avait près de 200 gendarmes qui étaient mobilisés, dont je précise notamment 18 qui sont spécialement formés encore en ce moment pour être autour du porteur de la flamme, constituer une sorte de bulle protectrice et d'empêcher, comme Christophe vient de le dire, toute intrusion d'un perturbateur qui voudrait, par exemple, tenter d'éteindre la flamme. Ces 18 policiers, en l'occurrence, ils étaient là en jogging et en basket, comme les différents porteurs de flamme. Ils les suivaient un peu à petite foulée et on les reconnaissait, ils avaient une chasuble rose. Et probablement que si quelqu'un avait tenté, même pour ce test, d'éteindre la flamme, il serait intervenu directement pour empêcher justement cette intrusion.
Bon, la sécurité, c'est l'un des enjeux. J'imagine qu'il y en a d'autres.
Oui, alors Christophe en a parlé, mais parmi ce qui a été testé, donc les timings. D'ailleurs, c'était assez intéressant parce qu'on voyait derrière le porteur de flamme, il y avait un représentant, lui aussi en jogging et en basket, du comité d'organisation des Jeux Olympiques, avec une oreillette plaquée au niveau de l'oreille, donc, et qui imprimait un peu la cadence, qui lui disait « Attention, là, t'es un petit peu trop rapide. Attention, là, il faut peut-être un petit peu ralentir. Voilà, là, t'as un très bon rythme. Oublie pas de profiter aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de porter la flamme olympique. » Donc, le timing, les cadences, ça, c'est en effet quelque chose qu'il fallait gérer. Et puis, peut-être un dernier point sur lequel j'insisterai. On les a vus aussi à l'œuvre. Il y avait aussi les équipes de la télévision, de la diffusion. La diffusion télé, c'est aussi ça qui a été testé, les caméras, parce que le parcours de la flamme olympique va être intégralement retransmis sur la plateforme de France Télévisions, qui est le diffuseur officiel en France. Donc c'est aussi les caméras, la diffusion, tout l'aspect aussi technique de ce point de vue-là qui a été testé pendant cette journée dans l'Aube.
Christophe, toi qui as l'habitude, c'est important que les médias puissent se préparer aussi pour faire vivre à leurs auditeurs, à leurs téléspectateurs au mieux cet événement ?
C'est indispensable, c'est une machine énorme les Jeux Olympiques. Hein, et c'est 190 pays facilement, autant de diffuseurs à chaque fois. Et c'est une machine qui nécessite des préparatifs comme nulle autre compétition. Les installations techniques, les accréditations, tout ça se fait des mois à l'avance, voire un an à l'avance pour les premières réservations d'installation, des positions commentateurs, comme on dit dans le jargon, qui permettent aux radios et télévisions de pouvoir effectivement commenter en temps réel. Tout ça, ça se fait minimum un an. Là, en plus, il y a aussi tout ce qui est réservation d'hébergement. Alors, dans le cas précisément, ça nous concernera un peu moins, mais c'est probablement, en termes logistiques, la plus grosse opération que puisse mener un média détenteur de droits qui va faire profiter des jeux à fond. Et ça nécessite vraiment un minutage, là aussi, très important. Et de ce point de vue-là, c'est forcément quelque chose qu'il faut prendre en compte très, très tôt.
Il y a des discussions aussi entre médias ou entre collègues de différents médias. Toi, tu as pu le vivre ailleurs pour se donner des tips, comme on dit aujourd'hui.
Oui, oui, même si tout est très contingenté, très compartimenté dans ce monde-là. Vous savez qu'il y a les médias donc détenteurs de droits de diffusion, ceux qui n'en ont pas. On ne peut pas forcément tout faire. C'est très, très, très codifié. Mais c'est vrai que il faut effectivement un responsable global des opérations parce que effectivement il faut prendre la partie technique, la partie administrative, la partie transport aussi, parce que les médias doivent pouvoir se transporter d'un point à un autre à chaque compétition et ne peuvent pas forcément compter uniquement sur les moyens de transport qui seront mis à disposition par Paris 2024.
Que tu étais venu m'en parler au moment des JO d'hiver cette fois.
C'était un cas particulier, les JO d'hiver. Il y avait toute la problématique autour du Covid et de la sécurité autour de ça. Là, on ne sera heureusement pas dans ce type de configuration. Mais là aussi, tout ce qui concerne les transports, les repas, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument prendre en compte parce que même si Paris 2024 offre des opportunités de pouvoir effectivement travailler correctement, il y a des choses qui sont de notre compétence à nous et il faut absolument les prendre le plus tôt possible.
Bon, pour que cette fête, elle marche, en tout cas, il faut des athlètes, ça c'est sûr, des médias pour retransmettre et faire vivre l'événement et puis des volontaires. Alors toi, tu les as rencontrés, ces volontaires, puisqu'ils étaient rassemblés lors d'une convention, c'est ça, comment ça s'est passé ?
Alors ça se passait à l'Arena de la Porte de la Chapelle qui se trouve au nord-ouest de Paris. C'est l'endroit où d'ailleurs il y aura des compétitions, il y aura la natation, il y aura également le water polo et la paranatation pour les Jeux paralympiques. olympiques. Alors, ils n'étaient évidemment pas tous là, ces 45 000 volontaires qui ont été sélectionnés. Ils sont venus assister en fait à un premier grand show, un spectacle qui était censé un petit peu les galvaniser et les mettre un peu dans le bain de ce qu'ils vont pouvoir faire. Ils étaient à peu près 20 000 en physique et à peu près autant en distanciel, en ligne, puisque effectivement, et on va en parler, il y a des volontaires qui viendront de tous les pays et forcément, ils ne pouvaient évidemment pas être là forcément.
C'était une question que je me posais. Il y a aussi des volontaires qui ne sont pas français de nationalité, qui viennent
de
l'étranger.
Alors, il y en aura exactement dans la proportion 20% qui viendront de nombreux pays. Paris 2024 nous annonce des volontaires venant de 190 pays différents. Et petite info RFI, parmi ces volontaires qui vont arriver probablement, en tout cas pour certains, vers le mois de juillet, en tout cas pour partie, il y aura des volontaires qui ont été présélectionnés par l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, parce qu'ils ont participé déjà en tant que bénévoles aux Jeux de la francophonie à Kinshasa en août dernier, et ils ont été repérés et ils ont bénéficié à cette occasion d'une formation d'accueil événementiel de ce type-là. Et leur profil a été donc transmis à l'OIF à Paris 2024, qui en a donc sélectionné 30. Évidemment, ils n'étaient pas là à l'Arena de la Porte de la Chapelle ici, mais ils seront là à partir du mois de juillet pour peaufiner leur préparation finale.
Parce qu'ils avaient déjà une certaine expérience.
Ils avaient une expérience, ils avaient bénéficié, ils avaient d'ailleurs, sur les Jeux de la francophonie, travaillé 6 mois avant. Donc eux, ils savent déjà comment se préparer à un grand événement qui sera évidemment cette fois-ci d'une toute autre nature.
Là, on est sur 45 000 volontaires, mais il y a eu, je crois, 300 000 demandes.
Effectivement, il y en a eu 300 000 en tout. Alors, il y a différentes natures d'inscrits. Il y a tout simplement ceux qui faisaient un acte de candidature à titre individuel, mais parce qu'ils étaient membres de clubs, d'associations, qu'ils faisaient partie du mouvement sportif français ou international d'une façon ou d'une autre, qui avaient aussi de l'expérience. Il y a aussi une catégorie, on ne va pas dire de privilégiés, mais qui ont bénéficié d'un circuit à part, ce sont ceux qui sont des salariés de groupes partenaires commerciaux de Paris 2024. Et ceux-ci ont été proposés par ces groupes. Ils ont passé exactement les mêmes tests et entretiens d'embauche que les autres, sauf que cette fois-ci, eux, ils ont bénéficié effectivement d'un quota qui leur permettait, de toute façon, pour ceux qui allaient être sélectionnés, de pouvoir bénéficier de la formation et, in fine, d'être sélectionnés.
Bon, cette convention, j'imagine, c'était pas juste pour faire la fête, il s'est passé
pas seulement,
quoi ?
Pas seulement. Alors, il s'est passé des choses, plutôt sympathiques. Il y a eu deux stands qui ont eu énormément de succès, on pouvait s'en douter. On pouvait se prendre en photo torche en main. J'aime autant vous dire que la queue était très, très, très longue. Et la queue était à peine moins longue pour pouvoir admirer les médailles olympiques et paralympiques qui étaient exposées coffret ouvert. Elles ont bénéficié vraiment là, d'un énorme succès. Et j'aime autant vous dire que ça, pour avoir vu plusieurs volontaires discuter avec eux, ça donne vraiment le ton et ça donne vraiment l'envie vraiment de se mettre dans le bain. Parce qu'il faut savoir que pour l'instant, les volontaires savent grosso modo ce qu'ils vont faire, où ils seront affectés dans un site ou dans quelle ville. Par contre, ils ne savent pas encore exactement quelle va être la nature exacte de leur mission. Qu'est-ce qu'ils vont faire, etc. Ça, ils le sauront un tout petit peu plus tard, ils vont être formés, on en reparlera. Mais le fait simplement de pouvoir avoir la torche en main et pour admirer ces médailles, j'aime autant vous dire qu'il y avait dans le noir, j'ai vu des yeux briller.
La motivation, on l'entend, on la comprend évidemment. Sur le parcours de la flamme, c'était pareil,
Ah bah
Baptiste?
Oui, c'était pareil. Il y a une chance aussi que les organisateurs ont eue, c'est de faire ce test sous le soleil. On peut peut-être parier que si ça n'avait pas été le cas, le dispositif n'aurait pas été le même et ça aurait peut-être davantage perturbé l'organisation. Mais en tout cas, il y avait du soleil, il y avait beaucoup de gens en bord de route, portable en main, des personnes aussi depuis leur balcon, premier, deuxième étage, pour observer aussi cette parade avec une vue un peu plongeante. Donc oui, il y avait un engouement. Alors après, c'était pas non plus noir de monde, on pouvait encore mettre un pied devant l'autre. Et puis il reste que Nogent-sur-Seine, où j'ai beaucoup été, c'est une ville de 6000 habitants. Mais quand on parlait là aussi un peu aux gens et aux habitants, il y a deux mots qui revenaient assez souvent. C'est d'abord la fierté. Ils étaient fiers de voir débarquer une organisation aussi importante que les Jeux Olympiques dans une petite ville de 6000 habitants, Nogent-sur-Seine. Et puis le côté presque irréel finalement de l'événement. Encore une fois, beaucoup me disent, mais c'est une organisation internationale. Nous, on est une petite ville. On n'a jamais vu un pareil déploiement de forces de l'ordre dans notre ville. Enfin, c'était quelque chose d'assez irréel pour eux. Donc il y avait une attente, il y avait comme une forme d'avant-goût en fait de Jeux Olympiques. La flamme pour eux, elle était déjà là. Puis derrière cela, ce que ça montrait aussi peut-être, c'est que l'énergie des Jeux, pour reprendre peut-être la communication un peu officielle des Jeux, c'est pas simplement une prérogative de grandes villes. Ça commence aussi petit à petit à essaimer peut-être dans des territoires un peu plus petits. Et c'est, je pense aussi, ça qui a été de manière, sans le dire directement, mais un peu testé aussi par l'organisation des Jeux ce jour-là. C'était un peu peut-être prendre le thermomètre aussi, savoir si l'énergie des Jeux, elle arrivait aussi pas simplement dans les grandes villes où les animations sont déjà annoncées, mais aussi peut-être dans des territoires un peu plus petits qui veulent aussi capter une partie de l'énergie des Jeux grâce au passage de la flamme olympique, par exemple.
Tu me disais tout à l'heure que ce département, il avait été choisi parce qu'il remplissait certains critères. Je veux bien que tu me dises quand même un mot du parcours de cette flamme en vrai. Quand est-ce qu'elle arrive en France ?
Alors, cette flamme olympique, elle arrive en France le 8 mai à Marseille. Elle arrive depuis la Grèce à bord du Belém, qui est donc ce trois-mâts français qui va donc accoster à Marseille le 8 mai. Et ensuite, c'est un Tour de France, un peu façon Tour de France cycliste, je disais, à savoir près de 400 villes traversées, 65 villes étapes. Donc, ça veut dire que la flamme va en quelque sorte dormir, arriver le soir et repartir le lendemain matin de ces villes-là. Et puis, elle va faire un Tour de France, un Tour des Outre-mer aussi. Il y a la Polynésie française, la Guyane, la Martinique, la Réunion et la Guadeloupe, si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, arriver à Paris le 26 juillet pour la cérémonie d'ouverture sur la Seine et donc le début officiel de l'Olympiade.
Avec un engouement exceptionnel, Christophe, ça fait un moment que tu fais des reportages autour de ces Jeux. Il est vraiment là, cet engouement.
Ah oui, là, ça commence à monter. Effectivement, ce n'est pas qu'un symbole de temporel. Là, quand on vit la préparation des Jeux de l'intérieur, on sent que, évidemment, toute l'organisation, mais nous aussi, quand Baptiste a vu effectivement les premières répétitions de la flamme, et aussi un petit peu les volontaires dans leur engouement, leur joie, leur satisfaction de pouvoir enfin faire partie de l'aventure concrètement après avoir été sélectionnés, etc. Oui, ça y est, ça commence à monter. On va d'ailleurs voir, et on voit d'ailleurs dans Paris déjà des petites transformations, des chantiers qui sont en train d'être mis en place pour la mise en place des sites temporaires que définitifs. Et là, oui, ça y est, ça commence effectivement à monter. Quand on voit, peut-être du point de vue du strict parisien, c'est pas encore tout à fait le cas, faut être honnête.
Il y a
des réticences, bon, il y a des polémiques, etc. Mais je pense que la plupart des polémiques vont effectivement s'aplanir assez rapidement. Et quand on verra effectivement les décors, les scénographies, tout ça, évidemment la cérémonie d'ouverture, qui sera le premier point culminant, oui, là, on verra que la magie des Jeux, d'une façon ou d'une autre, opéra, et on oubliera sans doute une grande partie des problèmes qui ont précédé.
Et à titre personnel, quand on est journaliste, on se dit quoi ? Ouh, ça va être dur ou c'est super, vais vivre
ça
quelque chose d'exceptionnel ?
Alors, quand on sait, alors ça va être dur, oui. Il y a à la fois, c'est les Jeux Olympiques, en tout cas pour moi qui les ai faits très souvent depuis maintenant les Jeux d'hiver de Turin en 2006, il y a à la fois l'excitation de l'événement, mais on sait que ça va être très, très compliqué parce que le volume de travail est sans précédent. Je pense qu'aucun journaliste du service des sports de RFI, en tout cas, il y en a beaucoup qui n'ont pas encore fait les Jeux. Hein. Ils vont le découvrir, ce que c'est surprenant de faire des Jeux olympiques. Ce n'est pas tout à fait le rythmique d'une Coupe du Monde ou d'une CAN. On est présent du matin au soir sur tous les sites.
Et il n'y aura pas que le service des sports.
Il n'y aura pas que le service des sports. En tout cas, je parle pour il y a un énorme dispositif dont on parlera. En tout cas, je parle pour ceux qui, du côté du service que je connais le mieux, c'est qu'il va falloir effectivement être au taquet, si je puis dire, du matin au soir. Mais ils sont tous très partants, très excités de voir effectivement un événement qu'ils ne, en tout cas sous cette forme, ils ne reviendront pas. À Paris, ils feront peut-être les prochains Jeux à Los Angeles, mais à Paris, ça sera forcément unique. Et il faut vraiment garder à l'esprit que ça sera un gros moment, un gros travail. Il va falloir s'arracher du matin au soir. Mais je pense qu'effectivement, à la fin, il y aura vraiment d'excellents souvenirs.
Baptiste a dit « j'ai hâte ». Tu as un conseil à lui donner ou pas ?
Qu'il faut qu'il se prépare déjà physiquement, hein, parce que voilà, il faut éviter les excès de toute nature avant, parce que on ne tient pas la distance, hein, c'est très compliqué, c'est quand même 17 jours à fond, mais il faut garder à l'esprit avant tout que ça va être vraiment un super moment et que ça, il faut effectivement faire abstraction de tout ce qu'on pourra avoir comme problème et on gardera forcément le meilleur à la fin.
Si je peux ajouter, c'est vrai que moi j'ai 24 ans, alors contrairement à Christophe, je n'ai pas du tout d'expérience. Les JO, je ne les ai jamais couverts, je les ai toujours vus derrière la télé, donc là je vais passer derrière le poste, si on peut dire. Et je crois que bon, ce n'est pas encore tout de suite, ça me paraît encore très loin, je n'imagine pas la charge de travail que c'est. Mais en tout cas, oui, forcément, j'ai hâte personnellement de les couvrir, notamment parce que c'est une opportunité vraiment unique et aussi parce que tous les sujets qu'on peut traiter, nous au Service France, on va peut-être faire plus les pas de côté, comme on dit, c'est-à-dire pas tant l'aspect purement sportif, mais toutes les actualités qui gravitent autour de l'organisation. Et ça va être aussi intéressant à couvrir. Et c'est déjà intéressant à couvrir maintenant, parce qu'on voit déjà, Christophe le disait, des transformations à Paris, sur certains quartiers, pour certaines populations aussi. Et c'est ça aussi, en amont, qui est intéressant à couvrir, en lien donc avec ces Jeux Olympiques.
Merci beaucoup, messieurs, d'être venus me raconter tout ça. La porte est ouverte, hein. Vous revenez quand vous voulez pour la suite de ces préparatifs.
Sans problème.
Merci beaucoup.
Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez envie de retrouver Témoins d'actu, rendez-vous sur l'appli Pure Radio de RFI et sur toutes les plateformes d'écoute. À très vite.